Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, l'enquête sur la vague d'attentats la plus meurtrière en France est bouclée. Attentat du 13 novembre, le procès aura lieu en 2021. Qui dans le box? De quoi devront-ils répondre? Jean-Philippe Deniau dans un instant. Des trains manquent encore à l'appel à la SNCF, des TER, des intercités. Nous faisons le point au PC Mobilité de Radio France. Et le sujet de crispation entre syndicats et direction, le droit de retrait est-il légitime? Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Est-ce que les cheminots risquent des sanctions?
C'est la menace brandie par la direction des samedis, mais les inspecteurs du travail s'interrogent. La SNCF aurait peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. On verra pourquoi.
Chez les profs, les négociations pour la réforme des retraites ne se passent pas bien. Syndicat très remonté, vous l'entendrez. L'actualité sociale, ce sont aussi les salariés de General Electric à Belfort qui approuvent le nouveau plan de la direction. 300 emplois sauvés contre de nouvelles mesures d'économie. En rugby, après le quart de finale perdu par les Bleus, la photo qui crée la polémique. L'arbitre du match hier, hilar avec les supporters gallois. L'organisation du mondial ouvre une enquête. Dans ce journal encore, Beyrouth noir de monde hier. 5 jours de manifestation contre la classe politique jugée incapable et corrompue. Que se passe-t-il au Liban? Les raisons de la colère avec l'une de nos correspondantes. Jour de législative au Canada. Reportage auprès d'un des candidats qui crée l'événement, un sikh. Ça y est, l'homme de Vitruve est accroché au Louvre 3 jours avant l'expo Vinci. Ce dessin iconique et très fragile a bien failli rester en Italie. Le conservateur de l'exposition pousse un grand ouf.
C'est vrai que de pouvoir l'accrocher samedi soir, dernière arrivée dans l'exposition, on était tous très émus parce que le dessin est absolument magnifique.
Il nous raconte aussi dans quelles conditions il a été transporté et dans quelles conditions il sera exposé. Vous verrez cela. Le numérique pollue. Nouvelle étude sur l'impact environnemental des écrans, des batteries et de tout ce qu'il faut pour les fabriquer et les faire tourner. On en parle avec l'invité du journal de 13h. L'environnement, c'est aussi à 13h30 tous les jours. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quelle est le menu?
On revient sur une catastrophe industrielle passée relativement inaperçue, celle de l'incendie de la station d'épuration d'Achères dans les Yvelines. Je reçois le journaliste Marc Lémé qui a enquêté sur l'omerta entourant cet accident.
01 45 24 7000 pour vos questions tout de suite. Émission à 13h30. France Inter, vous avez le programme jusqu'à 14h30.
France Inter.
Et l'heure du procès approche, 4 ans après la vague d'attentats la plus meurtrière jamais vécue en France. L'enquête est bouclée sur les attentats du 13 novembre au Stade de France, au Bataclan, aux terrasses des cafés. Il y avait eu 130 morts. Bonjour Jean-Philippe Deniau.
Bonjour Bruno.
Jean-Philippe, qui sera dans le box des accusés et de quoi devront-ils répondre?
Alors nous ne le saurons précisément qu'à la fin de l'année. Il faut encore attendre les réquisitions du parquet national antiterroriste, puis l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction. Mais en l'état, 14 personnes sont mises en examen dans ce dossier. Il y a le seul survivant des 9 hommes des commandos du Stade de France, des terrasses et du Bataclan, Salah Abdeslam. Il y a ceux qui sont présentés comme les logisticiens, les préparateurs des attaques, qui ont fait donc 130 morts et plus de 350 blessés, Mohamed Abrini et Mohamed Bakali. Il y a aussi les commanditaires présumés, dont les frères Fabien et Jean-Michel Klein, présumés morts dans la prise de Baghouz au début de l'année. Ils font quand même l'objet d'un mandat d'arrêt, comme 4 autres des 14 mis en examen. En termes d'enquête, c'est donc le dossier le plus abouti de toute la vague d'attentats islamistes en France et donc le plus volumineux. 45 000 codes, 45 000 pièces de procédure, 1740 parties civiles et 350 avocats à ce jour. Et tout cela donnera lieu au procès de tous les superlatifs. Au moins 6 mois d'audience dans une salle de 600 places spécialement construite au cœur du palais de justice de Paris. Procès envisagé au printemps 2021.
Enquête bouclée également sur l'attentat dans le Thalys. C'était 3 mois avant le 13 novembre. Un homme avec une Kalachnikov dans le train Amsterdam-Paris. Quelques passagers étaient parvenus à l'immobiliser. 5 personnes sont mises en examen, dont Ayoub Al-Kazani, l'auteur présumé de l'attaque. Ce procès-là est prévu à l'automne prochain. C'est nettement mieux que vendredi et ce week-end. Mais non, tous les trains ne circulent pas sur le réseau SNCF aujourd'hui encore. La direction annonce un retour à la normale sur les Ouigo et les TGV. Pour les trains régionaux, même si ça va mieux, il y a encore des manques. Bonjour Laurine Benjebria.
Bonjour.
En direct du PC Mobilité de Radio France. Laurine, quelles sont les régions concernées?
Eh bien, principalement dans l'ouest de la France. Sur Twitter, le compte des TER des Pays de la Loire annonce que le trafic reste perturbé tout cet après-midi avec des trains supprimés, notamment en gare d'Angers. Pyrénées. De nombreuses autres régions sont affectées. Prévoyez donc des perturbations sur les lignes de TER en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des trains supprimés par exemple sur la ligne des TER entre Lyon et Mâcon, y compris ce soir. À Paris, des TGV sont également supprimés ou affichent de nombreux retards en gare du Nord en direction des Hauts-de-France. Mais rien à voir là avec le mouvement social des conducteurs de train. Un Thalys Amsterdam-Paris a percuté une personne dans la Somme ce matin, ce qui engendre des perturbations sur les lignes Thalys et Eurostar.
Merci Laurine. Alors depuis vendredi, le débat est assez virulent entre direction de la SNCF et gouvernement d'un côté et syndicats, CGT en particulier, de l'autre. À l'origine de ce mouvement, il y a un accident dans les Ardennes. Le chauffeur était le seul agent SNCF à bord, ce qui pose la question de la sécurité. Une partie des cheminots fait jouer le droit de retrait quand on estime qu'il y a un danger grave et imminent pour sa santé. C'est une conception abusive du droit de retrait pour le PDG Guillaume Pépi et pour le gouvernement. Cela fait longtemps, et pas qu'en France, que des trains roulent avec un seul chauffeur à bord, c'est leur argument. Alors Maxime Debs, question, les cheminots risquent-ils des sanctions?
Eh bien, selon un inspecteur du droit du travail que nous avons contacté ce matin, rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. La SNCF n'est-elle pas allée trop vite en menaçant ses agents de retenue sur salaire, en leur envoyant des mises en demeure dès samedi? Elle joue avec le feu pour cet inspecteur, car brandir la menace de sanctions sans attendre qu'un juge ait été saisi sur la nature du mouvement, c'est quelque part faire entrave au droit de retrait invoqué par les syndicats. Droit de retrait qu'on doit considérer de bonne foi tant que le contraire n'a pas été démontré. Si d'aventure la SNCF perdait son bras de fer, cela pourrait surtout lui coûter cher, très cher, 10 000 euros d'amende multipliée par le nombre de salariés concernés. C'est ce que dit la loi en cas d'entrave constatée au droit de retrait. Pour l'heure, d'ailleurs, à notre connaissance, la justice n'a toujours pas été saisie. La SNCF aurait pourtant pu déposer une demande en référé sans attendre, s'étonne-t-on, à l'inspection du travail. La direction que nous avons sollicité ce matin n'avait aucun commentaire à faire sur le sujet.
L'ambiance est donc tendue à la SNCF et une nouvelle journée de grève se prépare contre la réforme des retraites. Ce sera le 5 décembre, appel à une grève interprofessionnelle. Elle sera reconductible dans les gares. Chez les enseignants aussi, cette réforme des retraites crée des tensions. Le système à points les pénalisera si on calcule leur salaire sur toute la carrière et non plus sur les 6 derniers mois comme aujourd'hui. Et puis les enseignants ont peu de primes. Alors le gouvernement promet une revalorisation des salaires. Négociations en cours. Syndicats très remontés, Sonia Princey.
Les syndicats enseignants attendent des engagements clairs sur la revalorisation des salaires et les déclarations du président Emmanuel Macron n'ont fait qu'inquiéter davantage. Lorsqu'il a parlé de changer le temps de travail, de regarder les périodes de vacances, des contreparties inacceptables pour Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU.
Si on doit profiter des retraites pour dire écoutez, on sait bien que vous ne touchez pas beaucoup de primes, que vous allez être défavorisé, donc on va augmenter le nombre de primes, on va en profiter de fait pour augmenter le temps de travail, non seulement ce ne serait pas une compensation, mais ce serait même une détérioration. Donc pour nous, évidemment, ce serait inacceptable, surtout quand il s'agit d'aller plutôt vers quelque chose de moins bien que vers des avancées.
Certains syndicats, comme le SEUNSA, envisagent de se joindre à la grève du 5 décembre. Stéphane Crochet, le secrétaire général, rappelle que sur les vacances scolaires, les professeurs travaillent, corrigent des copies, préparent les cours.
Les enseignants ont surtout la sensation et même la certitude de les avoir déjà largement donné les contreparties. Donc il faut arrêter d'avancer masqué du côté du gouvernement. Il faut dire ce qu'ils ont derrière la tête. La revalorisation des enseignants apparaît comme nécessaire aux yeux de tout le monde au regard des comparaisons.
Mais une revalorisation sans condition, dans un contexte où les directeurs d'école, les professeurs de lycée dénoncent déjà une surcharge de travail.
Près de 800 postes devaient être supprimés chez General Electric à Belfort. De haute lutte, les syndicats et salariés en ont sauvé 300. Les nouvelles propositions de la direction ont été approuvées ce matin à main levée. 300 postes sauvés, donc en échange, il faudra faire de nouvelles économies. Didier a 30 ans de maison, il a voté ce matin pour le plan.
Ce que j'ai voté, c'est la signature de cet accord pour sauver 300 postes. Voilà ce que j'ai voté. On n'avait pas le choix, c'était soit 300 postes, soit c'est 792 postes qui dégagent. Et c'est la telle amour du site. Là, les accords qui ont été signés remettent des choses en phase, avec des directeurs dans tous les départements, avec un pouvoir à Belfort, capable de discuter avec les Américains, parce que c'est ce qu'on avait perdu depuis quelques années. Donc si Belfort reprend la main sur ses dossiers, sur ses projets, sur la gestion du site, c'est une grande chose de gagner. De toute façon, on savait qu'on allait perdre des huit quelque part, mais bon, comme je dis, perdre des RTT qui sont pas réellement perdus, c'est des jours qui sont perdus, mais c'est des heures supplémentaires qui sont payées à la place. C'est quand même important pour sauver 300 postes, et s'il fallait passer par là, ben, il fallait le faire. C'est des collègues qui vont rester.
Un propos recueilli par Wassila Guitoun, 1500 postes en tout sont supprimés chez General Electric en France.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Des Druzes, des chrétiens, des musulmans chiites, tous en colère contre la classe politique. Dans ce pays kaléidoscope qu'est le Liban, la révolte crée l'unité depuis 5 jours. 5 jours de manifestations contre la classe politique jugée corrompue et incapable. Ils étaient hier des centaines de milliers dans la rue. Image impressionnante dans le centre de Beyrouth, jusqu'à assez tard dans la soirée et dans la nuit. Bonjour Chloé Demas.
Bonjour.
En direct de Beyrouth pour France Inter, Chloé, quel est le climat aujourd'hui ?
Alors écoutez, ce matin, Beyrouth est une ville paralysée, grève générale, les écoles, les universités, les administrations sont fermées, idem pour les banques, les magasins et les centres commerciaux. Les routes aussi sont bloquées par des barrages de manifestants. Au 5e jour de la contestation, ils ont installé des tentes, des tables, des sonos au carrefour de nombreux quartiers et dans le centre-ville, sur la place des Martyrs. Dans la capitale, les déplacements sont très limités et les forces de l'ordre massivement déployées. Personne ne travaille, tout le monde est dans l'attente.
Alors Chloé, il y a un conseil des ministres exceptionnel en cours. On attend une intervention du Premier ministre Saad Hariri. Il promet des mesures choc. Pour l'instant, Chloé, ces réformes ne passent pas.
Oui Bruno, le Premier ministre Saad Hariri, qui est à la tête d'une coalition fragile, il doit s'exprimer dans l'après-midi. C'est la fin du compte à rebours qu'il s'est lui-même imposé vendredi, 72 heures pour trouver une solution. On attend des annonces, on parle d'une 20aine de mesures censées redresser la situation du pays. L'économie est au point mort, la dette publique atteint 150% du PIB. Le Liban est le 3e pays le plus endetté au monde. Le problème, c'est que l'austérité, les Libanais n'en veulent plus. Pour eux, la classe politique est responsable du marasme actuel et n'a jamais été capable, par le passé, d'améliorer la situation du pays.
Alors, ce qui a provoqué les premières manifestations, c'est une hausse de taxes sur les appels WhatsApp, l'application pour téléphone, hausse bien vite enterrée, mais trop tard. Est-ce que désormais la contestation va au-delà de la ville de Beyrouth ?
Oui, il y a deux particularités à ce mouvement. D'abord, il s'est étendu à toutes les villes, Beyrouth bien sûr, mais aussi à Tripoli, la grande agglomération sunnite du nord, dans les zones de montagne chrétiennes et même dans le sud du pays, des villes comme Tyr ou Nabatieh, à majorité chiite. Ensuite, le mouvement dépasse largement les divisions traditionnelles, religieuses ou communautaires et fait rarissime, les partis hérités de la guerre civile ont perdu leur emprise sur les Libanais.
Chloé, demain en direct de Beyrouth pour France Inter, merci. Merci à vous. Au Chili, c'est une hausse du ticket de métro qui est à l'origine de 3 jours d'émeutes contre les inégalités dans le pays. Émeutes très violentes. Le bilan à ce stade est de 7 morts. Réponse martiale du président. Nous sommes en guerre. Près de 1500 personnes ont été arrêtées. Le couvre-feu est décrété dans 9 des 16 régions. Et pour la première fois depuis la fin de la dictature Pinochet, les militaires arpentent les rues de Santiago. Le climat est beaucoup plus apaisé au Canada en ce jour d'élection législative. 4 ans ont passé depuis l'élection de Justin Trudeau, et celui qui incarnait la nouveauté en 2015 a des concurrents plus jeunes que lui, en particulier le conservateur Andrew Scheer, son principal adversaire avec lequel il est au coude à coude. Et puis à gauche, un autre candidat fait l'événement, Nathanaël Charbonnier.
Il a déjà un nom que personne dans la partie québécoise du Canada n'arrive à prononcer véritablement. Jackmet, Jackmetting, Jackmet, pas facile. Mais à défaut d'un nom, il a un look particulier puisqu'il est sikh de religion et qu'il apparaît toujours avec un magnifique turban dont seule la couleur change.
Nos adversaires souhaitaient que les gens se limitent à mon apparence et nous ignorent. Mais les gens, ils ont écouté nos idées et ils sont d'accord avec nous.
Jackmet différent, il le sait et en joue. Roi du selfie, il a marqué des points, y compris dans la partie francophone du pays. Une gageure quand on sait que la loi 21 sur la laïcité est un véritable dogme. Mais pour ses partisans, ce signe ostentatoire n'est rien comparé à ceux qui avancent masqués. Catherine Roy-Goyette du Nouveau Parti démocratique.
Je pense que pour une grande majorité de la population, ce qui intéresse les gens, c'est pas ce que les gens ont l'air, les politiciens ont l'air, c'est davantage qu'est-ce qu'ils ont à dire. Je tiens à rappeler que l'ancien gouvernement gouvernement, le gouvernement conservateur, avait un ministre de la science qui était lui-même créationniste et qui portait aucun signe religieux. Alors, la laïcité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que les gens portent ou c'est ce que les gens pensent?
Et en cas de coalition, Jack McTing pourrait être celui qui, demain, permettra à Justin Trudeau d'effectuer son second mandat.
Voilà pour ce reportage de Nathanaël Charbonnier pour France Inter. Les résultats sont attendus dans la nuit, pas avant. Les derniers électeurs tout à l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, voteront à 4h du matin, heure de Paris. Je vous rappelle que les législatives sont à un tour au Canada. En Espagne, la droite et le centre-droit continuent de réclamer de la fermeté au gouvernement contre les manifestants en Catalogne. 5 nuits d'émeute la semaine dernière, des centaines de milliers de personnes à Barcelone vendredi. Dans 3 semaines des élections en Espagne, le Premier ministre a pris le pouvoir l'année dernière avec l'appui des députés catalans. Chaque lundi, dans ce journal de 13h, en partenariat avec l'INA, une archive pour éclairer différemment l'actualité. Un moment important pour les revendications d'autonomie de la Catalogne, c'est évidemment la mort de Franco. Sous la dictature, l'expression d'une identité catalane avait été réprimée. En 1977, 2 ans après la mort du Caudillo, FR3 consacrait un long reportage à l'Espagne. Témoignage de Jordi Pujol, qui sera dans les années 80 une des grandes figures catalanes. Ancien banquier, il avait fait 7 ans de prison pour distribution de tracts sous la dictature. Il traite de ce sujet ultra classique en sciences politiques. Qu'est-ce qu'une nation ?
Bon, la Catalogne, c'est une nation. C'est-à-dire, la Catalogne, c'est un pays avec une langue, avec une culture, avec une tradition historique, avec des affinités historiques, avec un sentiment collectif, avec une volonté de sauver, de garder, de développer aussi cette personnalité.
Depuis la mort du général Franco, beaucoup de choses ont changé en Catalogne.
Et ça a changé. Nous espérons même qu'il y aura de la part, pas seulement du gouvernement espagnol, mais aussi de la population espagnole qui découvre maintenant qu'il y a quelque chose qu'elle avait ignoré pendant 40 ans. Nous pensons aussi que de la part de la population espagnole, il y aura une attitude plus positive à l'égard de nos problèmes.
Et en 1978, la nouvelle constitution espagnole accordera une autonomie politique à la Catalogne, rétablissement du Parlement. Et Jordi Pujol deviendra en 1980 le chef du gouvernement autonome catalan. Dans le contexte de tensions actuelles en Espagne, c'est jeudi que seront exhumés les restes de Franco, exhumés pour être enterrés dans un lieu plus discret que le vaste mausolée près de Madrid où elles sont actuellement. Mausolée qui est devenu un lieu d'apologie du franquisme. Le numérique pollue les écrans, les ordinateurs, les batteries et tout ce qu'il faut pour les fabriquer et les faire tourner, émettent des gaz à effet de serre et consomment beaucoup de ressources naturelles. C'est le bilan d'une étude qui sort en ce début de semaine, étude signée Green It, qui regroupe des experts, des associations, le WWF par exemple, et aussi des professionnels du numérique. Bonjour Frédéric Bordage.
Bonjour.
Vous êtes partie prenante de cette étude. Qu'est-ce qui pollue dans le numérique? Quels sont les circuits? Qu'est-ce qui pollue dans le numérique?
Alors le numérique, hein, l'empreinte de l'univers numérique mondial, c'est à peu près 3 fois l'empreinte de la France. Et ce qui pollue le plus, c'est l'étape de fabrication de nos équipements, donc fabrication de nos ordinateurs, de nos tablettes, de nos télévisions connectées, etc. etc.
Parce qu'on fait quoi? Appel à beaucoup d'électricité, beaucoup d'eau?
Alors en fait, c'est pas tant l'électricité, c'est le fait d'extraire, par exemple, je vous donne un exemple sur un minerai, l'or, qu'on va retrouver dans nos microprocesseurs, hein, qui équipent nos smartphones, nos télévisions connectées, nos ordinateurs, etc. Pour extraire de l'or, il faut évidemment beaucoup d'eau, effectivement, mais il faut aussi du gasoil pour alimenter les tractopelles qui vont extraire la terre, et également des produits chimiques comme le mercure pour agglomérer les paillettes d'or. Et donc, en fait, c'est surtout cette étape d'extraction des minerais et leur transformation en composants électroniques, notamment les dalles des écrans, les microprocesseurs et les barrettes mémoire, qui va constituer la principale source d'impact. 3/4 des impacts du numérique mondial, c'est la fabrication de nos équipements à nous, les utilisateurs.
Alors, de l'or, mais aussi des métaux rares, ces fameux métaux dans des très petites quantités, dans chaque batterie, chaque téléphone, mais qui, petit à petit, vont finir par manquer. Vous citez le cas de l'antimoine.
Oui, tout à fait. L'antimoine est l'unité pivot quand on réalise des analyses du cycle de vie. Donc, on cherche à quantifier les impacts environnementaux du numérique. Pour témoigner de l'épuisement de ces ressources, on va utiliser l'équivalent antimoine. Et l'antimoine, eh bien, selon les projections, ça dépend un peu des études, c'est un minerai dont les stocks seront épuisés entre 3 et 15 ans. Donc, ça veut dire que dans 15 ans, on aura plus de minerais, on pourra plus fabriquer nos équipements numériques comme on les fabrique aujourd'hui. Tout à fait.
Est-ce que en ce moment, et j'imagine que la réponse est oui, il y a des cerveaux qui travaillent pour imaginer de nouvelles manières de fabriquer nos batteries, nos ordinateurs, trouver de nouvelles ressources. C'est un travail qui est mené activement en ce moment.
Alors oui, tout à fait. Il y a tout un tas de d'experts à l'échelle de la planète qui réfléchissent à comment concevoir et fabriquer un numérique autrement. Alors à la fois sur les équipements, mais le plus important, en fait, c'est un sujet dont on parle pas assez. C'est la conception responsable des services numériques. C'est l'idée de qu'avec les technologies actuelles, on est capable de délivrer beaucoup plus de valeur ajoutée. Avec les technos qui existent aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est comment utiliser de façon plus efficace les technologies d'aujourd'hui. On a le même problème avec le numérique qu'avec les voitures. En voiture, on a 1,27 passagers par trajet dans des voitures 5 places. Et bien finalement, le numérique, on a la même problématique. Et donc l'enjeu numéro 1, c'est pas tant de trouver des alternatives, c'est bien, il faut les chercher, mais c'est surtout d'arriver à utiliser de façon plus efficiente les équipements qu'on possède aujourd'hui. Et donc pour y parvenir, on a une approche aujourd'hui qui fait partie de la vaste démarche de la sobriété numérique et qui s'appelle l'éco-conception, et notamment une approche un peu radicale en éco-conception qui permet d'atteindre cet objectif.
Frédéric Bordage, puisqu'on parle de l'impact du numérique sur l'environnement, les serveurs informatiques qui utilisent énormément d'électricité pour tourner, est-ce que là aussi on travaille à des solutions pour les rendre plus économes ?
Alors, on travaille des solutions pour les rendre plus économes. D'ailleurs, on les connaît déjà pour la plupart. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les serveurs dont on parle beaucoup, qui consomment effectivement une certaine quantité d'électricité, ça ne représente, selon notre étude, qui a quand même été réalisée par les meilleurs experts français du sujet, ça ne représente que de 7 à 17% des impacts. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de consommation électrique du côté des data centers, l'enjeu numéro un, il est clairement du côté des équipements des utilisateurs, puis du réseau, et seulement ensuite au niveau des centres informatiques. Et effectivement, on a aujourd'hui des approches, en fait, plus que des technologies, qui nous permettent, par exemple, de faire du free cooling, c'est-à-dire d'exploiter le froid, donc l'eau froide ou l'air froid extérieur, plutôt que d'en produire avec l'équivalent de nos réfrigérateurs.
En une toute petite seconde, est-ce que votre étude concerne aussi les batteries de voitures électriques ?
Alors non, non.
Eh ben voilà, j'avais besoin d'une réponse en une seconde, je l'ai obtenue. Merci Frédéric Bordage d'avoir répondu à nos questions à propos de cette étude sur l'impact environnemental du numérique. L'alcool est en cause dans la moitié des féminicides et pourtant, dans les réflexions en cours sur le Grenelle contre les violences conjugales, peu ou pas de mesures contre l'alcool. C'est ce que disent un certain nombre de professionnels qui signent deux tribunes aujourd'hui pour alerter le gouvernement. Écoutez un des signataires de ces tribunes, le professeur Michel Reynaud. Il est addictologue et président du Fonds Action Addiction.
Il n'y a aucun doute, l'alcool et certains psychotropes sont des facteurs de violence. Ce n'est pas simplement un facteur de risque, c'est vraiment une cause. On l'a vu avec plusieurs exemples de situations expérimentales montrant que dans les situations où il y a déjà eu des violences, la présence d'alcool multiplie par 8 le risque de violence et par 11 le risque de violence grave. Donc les pouvoirs publics doivent s'en emparer de plusieurs manières. D'abord, il doit donc y avoir une analyse des consommations et du comportement avec les produits, pour chaque féminicide évidemment, mais même pour chaque plainte, parce que ça permet de mettre en place une stratégie pour le couple pour diminuer les risques. Et puis ils doivent s'en emparer d'une manière plus générale, qui consiste à diminuer les consommations d'alcool, par exemple dans les rues de la soif, avancer l'heure de fermeture d'une heure à une heure et demie, diminuer de 30% les violences. Il y a des méthodes qui sont faites de façon empirique par certains maires qui devraient devenir des règles.
Un propos recueilli par Daniel Messager. Ah, c'est la photo qui fait marrer le Pays de Galles et enrager les Français. Photo de l'arbitre du quart de finale de rugby hier en Coupe du Monde. Cet arbitre avec des supporters gallois. Rappel, en deuxième mi-temps hier, l'arbitre Jacob Aiper a expulsé le Français Vahamina pour un mauvais geste. Ce fut un des tournants du match, l'une des causes de la défaite française. Et ensuite, Vincent Pellegrini ?
Hier soir, plusieurs heures après le match, Jacob Aiper a rencontré dans les rues d'Oïta des supporters gallois. C'est quelques minutes plus tard qu'un supporter anglais a pris ce cliché qui fait polémique. On y voit l'arbitre sud-africain tout sourire, imiter le coup de coude asséné par Sébastien Vahamaina, un joueur gallois, ce qui amuse beaucoup les supporters gallois hilar, une pinte de bière à la main. La photo s'est rapidement retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle a suscité d'innombrables commentaires, amusés ou scandalisés. Sur son compte Twitter, le vice-président de la Fédération française, Serge Simon, a jugé cette photo choquante, ajoutant que des explications étaient nécessaires. La Fédération internationale de rugby a réagi à cette mise en scène de très mauvais goût. Dans un communiqué, elle a déclaré qu'elle est consciente des faits et qu'une investigation est en cours. Âgé de 39 ans, Jaco Peyper est un arbitre réputé. Il a dirigé plusieurs matchs du tournoi Destination et participe ici à sa deuxième Coupe du Monde. Oita, Vincent Pellegrini, France Inter.
Les demi-finales du Mondial se tiendront samedi, Angleterre, Nouvelle-Zélande et dimanche, Pays de Galles, Afrique du Sud. En tennis, un cap symbolique pour Roger Federer. Il dispute dans son pays, la Suisse, à Bâle, le 1500e match de sa carrière aujourd'hui. Il est professionnel depuis 21 ans. Toujours en tennis, il n'avait plus joué depuis 3 ans. Coupe Davis, Gaël Monfils est rappelé pour la phase finale de la Coupe Davis le mois prochain. J-3 pour l'exposition événement de l'année au Louvre, Expo Léonard de Vinci, 500 ans après sa mort. Jamais autant d'œuvres de Vinci n'ont été réunies, des dessins, des manuscrits, des tableaux. Une vingtaine de peintures seulement lui sont attribuées avec certitude. Il y en aura 10 au Louvre, 11 en comptant la Joconde qui reste à l'étage dans sa salle des États. Déjà 180 000 billets achetés pour cette expo. La réservation est obligatoire. Et puis il y aura des mystères et des incertitudes jusqu'au dernier moment. Le Salvator Mundi, le tableau le plus cher du monde, sera-t-il là? Rien n'est moins sûr. Pour le célèbre ici dessin, l'homme de Vitruve. La situation s'est débloquée la semaine dernière. Il quitte bien l'Italie. Une action en justice d'une association nationaliste a fait trembler le conservateur Vincent de Lieuvin jusqu'au bout.
C'est vrai que jusqu'au dernier moment, ce prêt qu'on pensait certain est redevenu incertain. Et c'est vrai que de pouvoir l'accrocher samedi soir, dernière arrivée dans l'exposition, on était tous très émus parce que le dessin est absolument magnifique. C'est vraiment l'étude des proportions idéales du corps humain. Comprendre en fait la beauté de ce corps qui est inscrit dans les formes géométriques parfaites du cercle et du carré. Donc c'est une approche peut-être un peu plus philosophique et qui est complémentaire de l'approche scientifique de Léonard.
C'est aussi un dessin extrêmement fragile.
Alors effectivement, l'homme de Vitruve a été transporté dans des conditions, j'irais d'abord de sécurité extrême et des conditions aussi de conservation tout à fait particulières. En fait, le dessin est conservé dans une boîte climatique qui assure la parfaite stabilité de l'hygrométrie. Et puis après, il est dans les salles d'exposition, accroché là aussi avec une grande sécurité, avec des capteurs qui là aussi contrôlent la lumière. Comme c'est un dessin particulièrement précieux, Venise nous le prête, mais pendant 8 semaines.
Un propos recueilli par Isabelle Pasquier. L'expo commence donc jeudi et se prolonge jusqu'au 24 février. Elle se tient à Paris quelques semaines après celle consacrée à Toutankhamon qui a battu le record d'influence à la Villette, plus d'1 400 000 visiteurs. Vinci dans les coulisses d'une exposition presque impossible, c'est un numéro de poursuite, le podcast de la rédaction de France Inter que vous trouverez sur franceinter.fr ou les plateformes de podcast.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Calac.
Ça reste très nuageux de la Méditerranée à l'Alsace avec de bonnes pluies de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au Jura. Entre la Bretagne, le bassin parisien, la frontière belge, là aussi un ciel encombré avec un peu de pluie au nord de la Seine. Des Charentes au Pays Basque, des éclaircies, mais un risque d'averses et d'orages. Ailleurs, c'est plus calme entre nuages et éclaircies, encore trop timides. Les températures sont voisines des moyennes de saison. Ça baisse à l'est, comptez 13 degrés à Rouen, 14 à Lille, Brest et Mulhouse, 15 à Paris, Angoulême, Lyon, 17 à Biarritz, 18 à 22 degrés près de la Méditerranée et jusqu'à 27 en Corse. Demain, un temps très agité gagnera le sud, l'Occitanie et le sud de l'Aquitaine en particulier, avec des pluies orageuses fortes, durables et beaucoup de vent.